BFM Business, Focus Retail, Eva Jaco.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur BFM Business pour votre émission Focus Retail. Et au programme aujourd'hui, on se concentre sur le marché de l'enfant, un secteur sous pression entre ralentissement de la consommation, concurrence accrue et nouvelles attentes des parents. Comment les acteurs historiques se réinventent-ils? Quelle place pour le digital, la seconde main ou encore les magasins physiques? Et surtout, quels sont les nouveaux relais de croissance dans cet univers en pleine mutation? Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir Mathieu Hamel, il est directeur général de Verbaudet. Et puis restez avec nous pour la seconde partie de cette émission puisque nous parlerons de la montée en puissance de la seconde main avec une start-up qui bouscule les codes et qui s'appelle Smala. Focus Retail, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Et sur ce plateau, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Mathieu Hamel. Bonjour.
Bonjour Eva.
Vous êtes le directeur général de Verbaudet. À mes côtés sur ce plateau, notre experte retail cette semaine, c'est vous, Mélanie. Mélanie Effroy, vous êtes directrice commerciale de la régie chez Media Performance. Alors Verbaudet, c'est une entreprise qui a été créée dans les années 60, acteur incontournable de la vente à distance. C'est aujourd'hui un site e-commerce dédié à l'enfant, à tout ce qui l'entoure, hein, pas seulement le prêt-à-porter. Mathieu Hamel, on a vu cette semaine que les prix à la consommation sont en hausse de 1% en mars, dopée par le prix du pétrole. Le contexte géopolitique pèse sur les Français qui consomment moins, on l'a vu en mars. Le chiffre d'affaires des enseignes non alimentaires a reculé de 2,2% par rapport à la même période l'an dernier. Vous le ressentez, vous, qu'en est-il chez Verbaudet?
Alors, pour l'instant, on n'observe pas d'impact ni sur notre activité, ni sur les coûts. On a une activité en mars en France qui est en progression de l'ordre de 5% sur Internet, en légère régression dans nos magasins parce que le trafic régresse un peu dans les magasins. Il peut y avoir un lien de cause à effet d'ailleurs avec le prix du carburant. Donc pour l'instant, pas d'impact chez nous, la tendance reste bonne. Et sur les coûts, les impacts sont également très limités, très circonstanciés.
Donc, pas de coûts supplémentaires liés à l'énergie, aux emballages et tout ce qui...
Non, en fait, il y a un tout petit peu de coûts supplémentaires sur la livraison Last Mile, donc la livraison chez le consommateur par Colissimo, Mondial Relais, etc. Par contre, on n'a pas d'impact pour l'instant sur le coût du transport maritime qui est important pour nous. Pour le moment, les prix sont relativement stables. Et comme chez Verbaudet, nos produits sont essentiellement constitués plutôt de coton pour le textile ou de bois pour la maison et les jouets, on n'est pas exposé aux variations du prix du plastique et donc qui est celui-là lié aux hydrocarbures. Mmh. Voilà, donc on est nous plutôt protégés par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et nos ventes, je le redis, sont bien orientées sur le début d'année.
Alors oui, vous dites plus 5% alors qu'on a vu en mars les marques d'habillement sont à moins 4,4%. 85% de vos ventes sont effectuées en ligne. C'est selon vous ce qui vous permet de gagner des points face à vos concurrents, cette présence en ligne?
Oui, je pense que c'est une des raisons qui explique la bonne santé de Verbaudet en ce moment. Notre présence en ligne, voilà, c'est ce qui est attendu par beaucoup de consommatrices et de consommateurs aujourd'hui. À côté de ça, on a aussi eu un gros travail de diversification de l'offre produit qui nous permet de répondre à beaucoup d'envies, beaucoup de besoins des futurs parents, des jeunes parents. Verbaudet, c'est pas seulement des vêtements pour enfants, c'est de la déco, c'est du mobilier, c'est de la puériculture, c'est des jouets. Donc voilà, tout ça participe aussi au succès. Et puis on a des marques propres qui sont également très fortes.
Alors vous avez évoqué pas mal de points dont on va parler, mais j'aimerais m'attarder sur ce que vous disiez par rapport à cette catégorie des jeux et jouets, du mobilier. C'est ce qui a fait qu'on vous a élu via l'AFEVAD, site internet préféré par les consommateurs. Qu'est-ce que ça représente ce segment chez vous?
Alors d'abord, ce prix, c'était pour nous plus qu'une récompense, c'était une vraie marque de confiance, hein, parce qu'il est décerné par pas par la profession, mais par 6000 consommateurs qui ont voté. Voilà, et Verbaudet est ressorti premier du classement devant les plus grands, les plus beaux concurrents, Amazon pour pas le citer notamment. Donc c'était une vraie marque de confiance. Je crois que le travail qui est fait en fait sur que ce soit sur nos meubles, sur la déco, sur les jouets, il fait des produits assez singuliers. En fait, les produits sont conçus, designés, mis au point par des ingénieurs qualité chez nous en France. Il y a une vraie singularité sur le style, il y a une vraie identité quelque part. Il y a un vrai travail qui est fait sur la responsabilité aussi. aussi des matières qu'on utilise. Nos jouets sont essentiellement en bois, avec du bois qui provient de forêts qui sont durablement gérées. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'on a une proposition qui est singulière et qui est plébiscitée par les consommatrices et par les consommateurs.
Un bureau de design donc en France, mais les produits sont majoritairement fabriqués en Asie. Vous m'avez pas répondu, cette catégorie, elle est en croissance sur le mobilier, les jeux
absolument.
Jouets.
Absolument. Ce qu'on observe, c'est que chez nous, les ventes de prêt-à-porter sont plutôt stables. Et que la croissance, on va effectivement la chercher sur le meuble, sur le jouet, un peu sur la puériculture aussi, même si c'est un marché qui est un petit peu plus challengé. Donc c'est effectivement sur ces catégories-là que nous avons fait notre croissance l'année dernière.
Challengé de par la baisse de la natalité. À vous, Mélanie.
Longtemps, on vous a connu comme étant un acteur de la vente à distance. Comment le magasin joue-t-il un rôle dans vos stratégies à l'heure actuelle ?
Alors, Eva l'a dit, hein, 85% des ventes sont réalisées en ligne. On se définit comme un quasi pure player aujourd'hui. On est très focalisé sur l'expérience en ligne. Tous nos investissements marketing sont très orientés vers le online. On a 75 magasins. On est très heureux de les avoir. Ces magasins jouent plusieurs rôles. D'abord, ce sont des centres de profit. Voilà, ce sont des magasins qui génèrent des ventes et de la rentabilité. Mais c'est surtout aujourd'hui un vrai relais, quelque part un point de service pour le web. On a une grande partie des commandes web qui sont récupérées dans nos magasins. Et là, les personnes qui se déplacent en magasin peuvent bénéficier d'un accueil humain, de services, d'expertise. Donc, on capitalise là-dessus. Et puis, je crois aussi que les magasins deviennent maintenant comme des médias. Donc, le fait d'avoir des magasins bien visibles, très matérialisés, c'est une manière aussi d'être présent à l'esprit pour les consommatrices et pour les consommateurs. Et c'est sans doute une de nos forces aussi par rapport à des pure players qui, eux, n'opèrent absolument que en ligne.
Ces magasins, d'ailleurs, il y en a 75. D'ailleurs, où est-ce qu'ils sont situés ?
Alors, ils sont que en France. Il faut savoir que Verbaudet réalise 2/3 de son activité en France, 1/3 à l'international. Donc, nos magasins sont que en France et ils sont aux quatre coins de la France. Alors, on n'a pas une couverture complète du territoire avec 75 magasins. On en ouvre d'ailleurs chaque année de nouveau. Voilà, l'idée, c'est peut-être d'arriver à un moment donné une centaine de magasins, mais on peut en retrouver un peu partout.
Des magasins que vous voyez comme des showrooms, est-ce qu'on y trouve absolument l'entièreté de la gamme ?
Alors, c'est une très bonne question. Malheureusement, compte tenu du fait qu'on a à peu près 6000 références, dont des références de meubles, de jouets extrêmement, enfin qui sont des très beaux jouets mais qui sont un peu encombrants, on ne peut pas tous les montrer en magasin. Donc on a essentiellement l'assortiment du prêt-à-porter en magasin et ensuite un peu d'échantillonnage quelque part de ce qu'on propose sur le reste. Et tous nos magasins sont équipés d'iPad qui permettent d'accéder à l'ensemble de l'offre et on prend des commandes web en magasin avec le conseil, avec l'expertise de nos conseillers et conseillers de vente.
Je me posais la question, face à des acteurs comme Zalando ou Amazon, c'est quoi votre véritable atout finalement ?
Aujourd'hui, on a une ambition qui est simple, c'est de devenir le one-stop shop préféré des parents. Et ce que la singularité de Verbaudet par rapport à ces acteurs-là, c'est qu'on est véritablement un spécialiste de la parentalité et de l'enfance. Et je crois qu'on a su installer une relation de confiance avec nos clientes et avec nos clients, à la fois sur notre marque propre, mais aussi par rapport à toutes les marques qu'on peut proposer aujourd'hui sur notre marketplace, qu'on choisit avec beaucoup de minutie, avec beaucoup d'exigence sur la qualité, sur la durabilité, sur le style, pour pas trahir notre promesse, quelque part, de qualité. Donc, je pense que ce qui nous distingue de ces très grandes marketplaces, c'est la sélection, la curation, la qualité des produits et donc le rapport de confiance que ça peut créer. Faut pas oublier que nos produits, ils sont utilisés par des enfants, par des bébés. Donc voilà, la dimension de qualité, de durabilité, de sécurité, cette dimension, elle est clé.
Vous soulevez un point intéressant. Vous dites, vous êtes une marketplace, vous avez aussi votre marque propre. Comment est-ce que ça se partage, cette activité ?
Alors, l'essentiel de l'activité se fait sur notre marque propre. C'est à peu près 80% des ventes. Et je l'ai dit tout à l'heure, tous les produits sont mis au point à Tourcoing par nos équipes de style, etc. Et on réalise 20% de l'activité avec des marques autres, dont une grande partie sur la marketplace. On a lancé notre marketplace il y a maintenant 2 ans. L'objectif est plutôt d'essayer de compléter l'offre sur des catégories sur lesquelles on n'est pas naturellement présent avec Verbaudet. Typiquement, on a lancé en début d'année toute une gamme d'hygiène beauté, enfin d'hygiène et de soins pour bébés, pardon, avec une marque comme Biolan, qui a très bien démarré chez nous. On a en ce moment une mise en avant sur les jeux de plein air. On fait pas de jeux de plein air sur Verbaudet, mais on a une marque comme Trigano. Ces deux marques-là ont en commun d'être des marques françaises avec beaucoup de Made in France. Donc, ça nous permet aussi voilà, de proposer des produits qui sont imaginés et fabriqués en France. Et on regarde peut-être à réintroduire du livre pour enfants aussi au travers de la marketplace. Donc, c'est toujours cette idée de couvrir le plus possible de besoins.
Cette marketplace, elle correspond à quoi sur votre activité totale ?
En fait, c'est 80% sur la marque propre et 20% D'accord. sur des marques tierces.
Vous êtes tout de même en concurrence, et il faut le dire, hein, avec les plateformes chinoises. Comment est-ce que vous voyez l'essor ? Parce qu'il faut vraiment parler d'un essor hein, de ces plateformes e-commerce.
Alors, d'abord, je tiens à redire qu'il y a un problème de distorsion de concurrence majeure. Je sais que ça a été dit et répété des dizaines de fois, mais les pouvoirs publics ont pris conscience du problème, mais les décisions ne suivent pas suffisamment rapidement. Je pense que c'est extrêmement important que l'Europe légifère sur le sujet. On a vu des choses, on sait qu'il y a des mesures qui arrivent.
La
taxation des petits colis arrive au niveau européen le 1er juillet. Le statut la responsabilité des plateformes sur les produits qui vont être vendus sur les plateformes pourra être engagée, je crois, dans quelques mois. Mais tout ça ne va pas assez vite parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans une difficulté terrible à cause de ça. Nous, on a suffisamment, je pense, d'avantages concurrentiels et peut-être de différences qui font qu'on arrive à continuer à croître dans cet environnement. Mais c'est vraiment terrible. Et je tiens à dire aussi qu'on s'est, on a attaqué Chine en justice. On fait partie de cette centaine d'entreprises qui poursuit Chine en concurrence déloyale. On demande des dommages et intérêts à Chine. Vous savez que beaucoup de fédérations professionnelles et beaucoup d'entreprises ont attaqué. On en fait partie. Et j'insiste, c'est un combat qui n'est pas terminé. Comment on fait pour résister par rapport à ça ? On a un positionnement qui est très différent de celui de Chine et Temu. Je l'évoquais tout à l'heure. On fait vraiment de la curation sur les marques, les produits. On est très exigeant sur la qualité, la durabilité. Évidemment, on est plus cher aussi. Les produits Verbaudet sont beaucoup plus coûteux que ce qu'on peut trouver sur Temu ou sur Chine. Mais le grade de qualité est sans commune mesure. Et la question de la sécurité, notamment s'agissant des bébés, chez nous, on est très exigeant avec nous-mêmes sur les questions de qualité. Donc, il n'y a pas de risque. Donc, c'est ce qui nous différencie fondamentalement des plateformes chinoises.
Mais qu'est-ce que vous recommanderiez ? Comment est-ce que vous iriez encore plus loin pour imposer justement un contrôle plus important ?
En fait, il y a plusieurs sujets. D'abord, le sujet des droits de douane. Donc ça, la taxe sur les petits colis va commencer à y répondre. Donc il faut que les droits de douane soient imposés. Quand nous importons un produit d'Asie, on paye 12% de droits de douane dessus, enfin de Chine, pour être plus précis. Il faut que les plateformes chinoises qui exportent massivement les petits colis soient soumises aux mêmes règles. Il faut qu'ensuite que les réglementations sur la qualité des produits, les normes de sécurité, les normes européennes, en fait, s'appliquent. Aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle systématique. Et quand ces contrôles sont faits sous forme de prélèvement, on s'aperçoit en fait que la majorité des produits ne sont pas conformes. Après, il y a plein d'autres questions. Il y a celle des éco-contributions, par exemple. On paye des éco-contributions aux organismes qui sont en charge du recyclage, du réemploi, etc. Les plateformes chinoises ne les acquittent pas.
Mathieu, il nous reste une minute. Allez, je laisse la parole à Mélanie.
Alors, sur un autre sujet, comment exploitez-vous les données de votre site, justement, pour proposer des offres, peut-être aux consommateurs, ou alors leur suggérer certains produits ?
Alors, c'est une très bonne question. D'abord, on respecte scrupuleusement la RGPD, ce qui est une nouvelle différence par rapport à certains acteurs chinois. Le sujet de la personnalisation, il est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye beaucoup de personnaliser les offres. On a des personas différents selon qu'on s'adresse à des futurs parents, selon qu'on s'adresse à des grands-parents ou des parents de familles nombreuses. Donc, toutes nos offres sont personnalisées. Ça passe par du CRM, ça passe par la personnalisation de la navigation sur le site. Et on travaille sur un projet qui va être central pour nous, qui va être celui d'une application mobile qui nous permettra d'aller un cran plus loin et d'aller chercher ce qu'on appelle de l'hyper-personnalisation, avec des contenus qui seront vraiment très adaptés selon que vous soyez parent d'un nouveau-né ou d'une famille de pré-ados.
Mathieu, en un mot, quel est votre panier moyen ?
Le panier moyen, il est de 70 euros.
Ah oui, donc ça reste quand même rien à voir avec les plateformes chinoises. Merci beaucoup, restez avec nous. On a encore plein d'autres questions, notamment sur la seconde main, mais on en parlera avec vous et notre start-up. Et puis, sans plus attendre, on passe tout de suite au focus. Alors, on l'abordait justement avec notre grand patron en plateau. La France a enregistré l'an dernier plus de décès que de naissances. Dans ce contexte inédit, Comment le marché de la puériculture arrive à résister ?
Alors, c'est tout le paradoxe finalement de ce secteur. C'est malgré une baisse très forte de la natalité qui s'opère depuis 2014, on le sait, les ventes de produits de grosse puériculture sont finalement arrivent à résister, et notamment résistent par une stratégie qui est assez logique, celle de la montée en gamme. Donc, en termes d'équipement, l'équipement de base, on est sur une poussette, un siège auto, un lit, et cet équipement atteint 1500 euros. En moyenne, et pour 50% de cet équipement, on est sur la poussette qui, avec des modèles comme la Yo-Yo notamment, on avoisine les 800 euros. Donc on est sur un marché de la puériculture où on achète moins, mais en fait on dépense plus.
Oui, la Yo-Yo, effectivement, qui est une poussette que l'on voit absolument partout. Ce modèle, est-ce qu'il arrive à faire face à la montée en puissance de la seconde main ?
Alors, c'est là que ça se complique, parce que finalement, ces produits sont généralement conçus pour durer. Et on assiste, résultat, à un marché de l'occasion qui est extrêmement dynamique. Puisque chaque année, c'est plus de 5 millions d'annonces qui sont publiées sur le site du Bon Coin, par exemple. Et les marques se retrouvent avec un effet de boomerang concurrencés par leurs propres produits, ce qui est assez atypique. En l'occurrence, la seconde main, et on en a parlé tout à l'heure, il faut être assez vigilant sur la notion, il y a un risque, c'est celui de la sécurité, et notamment sur les sièges auto.
Ah oui.
Bah oui, parce qu'il y a quand même une notion importante de se dire, je n'achète pas un siège auto qui serait
Un peu comme les casques finalement.
Exactement.
Il y a une autre option qui est en train de voir le jour et de se pérenniser, c'est la location.
Alors, complètement. Et cette location, on fait appel à des acteurs comme Familib, qui mettent à disposition sur des points relais des produits de puériculture que l'on peut louer. Par exemple, une poussette premium est disponible aux alentours de 30 euros, donc bien moins cher que l'achat d'une poussette neuve.
Merci beaucoup, Mélanie, pour votre expertise. Sans plus attendre, on passe au pitch de notre start-up.
Focus Retail, la start-up.
Lors de la première année de vie d'un enfant, les parents achètent près de 70 vêtements. C'en est autant à vendre, à revendre par la suite. C'est ce sur quoi opère notre start-up aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Aude Viau. Vous êtes la fondatrice de Smala. C'est une start-up spécialisée dans la gestion, le traitement et la valorisation de vêtements pour enfants. Vous opérez, vous, uniquement en ligne. Vous êtes, alors, quand on va regarder sur votre site, vous êtes un vrai site en ligne où on peut acheter et vendre. Quelle est votre différence avec Vinted, par exemple ?
Alors, la vraie différence de Smala, c'est que, comme vous l'avez dit, on a un modèle complètement intégré. C'est-à-dire qu'on va gérer de l'achat à la revente en passant par le reconditionnement. Donc, on opère toute la chaîne, je dirais, de reconditionnement en certifiant finalement la qualité de chaque produit. C'est-à-dire que chaque produit va être inspecté, trié pour vraiment garantir son état. Ça, c'est vraiment sur le produit.
Et nettoyé aussi ?
Non, il n'est pas nettoyé. Par contre, on demande à ce que le produit soit impeccable. Il va ensuite se retrouver donc sur notre site internet où là il y a la vraie différence, je dirais, avec des plateformes comme Vinted, c'est que c'est une expérience finalement comme celle du neuf où le consommateur va pouvoir faire un seul et même panier de plusieurs articles, c'est un seul et même colis. Il n'y a pas de négociation, voilà, de prix,
sur le prix,
etc., d'échange, voilà. Il y a une certification donc de l'état du produit. Il y a aussi une expérience client, un SAV dédié qu'on va pouvoir contacter en cas de problème. Donc c'est vraiment une adaptation du modèle du neuf à la seconde main.
On peut pas négocier les prix, mais ça reste quand même à moindre coût par rapport à du neuf.
Bien sûr. Ce que je veux dire par négocier les prix, c'est vrai que c'est souvent les parents nous disent, voilà, les vêtements pour enfants, vous avez dit, c'est 70 vêtements la première année, ça prend un temps de dingue. Et les parents nous disent, moi, je suis en recherche de facilité, de gagner du temps. Et donc, on a imaginé, nous, Smala, justement, pour faciliter la vie des parents dans cette expérience de seconde main qui, habituellement, prend du temps. Chez Smala, c'est rapide.
Alors, vous collectez 500 000 vêtements par an que vous récupérez auprès de particuliers ou alors auprès de marques assez connues. C'est quoi votre business model ? Comment ça se partage, cette activité ?
Alors, sur la partie seconde main, parce qu'on a aussi deux autres activités, mais en tout cas, sur la partie seconde main, en effet, on propose aux familles de nous envoyer les articles de leurs enfants et d'opérer finalement tout le tri, leur passage, la photo, toute la mise en ligne, en fait, qu'ils feraient exactement sur une plateforme et de vendre ces articles. Les parents sont payés directement et nous, on revend ces articles sur notre site internet. Ça, c'est à peu près, je dirais, 60 à 65% de notre business. On a aussi, depuis 2021 et depuis 2022 avec Verbmodé, des partenariats avec des marques, en fait, pour lesquelles on opère en marque blanche, c'est-à-dire que les marques offrent ce service à leurs clients. Les clients vont envoyer les articles, leurs articles d'occasion, leurs articles déjà portés à la marque. Derrière la marque, en fait, c'est Smala qui va opérer toute la chaîne logistique, va traiter le produit jusqu'au bout pour le remettre en vente, le remettre en circulation, soit donc sur Smala, sur les sites sur les sites en marque blanche ou sur le site Verbaudet, dans le cas de Verbaudet.
Alors, vous êtes aussi en partenariat avec Verbaudet, donc vous l'avez dit, mais Jacques Addy et Cyrilus. Mathieu Hamel, vous avez commencé à proposer de la seconde main avec Smala ou c'était déjà le cas avant?
Non, absolument. Nous, on a commencé notre activité de seconde main avec Smala. On vous avait parlé de Vinted. Vinted a pris une part de marché considérable. Nous, ce qui nous a séduit chez Smala, c'est la possibilité d'offrir à nos clientes, à nos clients, un vrai service. Smala, c'est hyper simple. Je prends mes vêtements qui sont trop petits, je les mets dans un paquet, je les envoie et je m'occupe plus de rien après. Nous, c'est ça qu'on a voulu
que vous
proposer.
Êtes allé chercher.
C'est ça qu'on allait chercher. Et donc, ce service chez nous s'appelle Reverbaudet. Donc, il est opéré en marque blanche par Smala. Et on est très content de ce partenariat parce que c'est un vrai service qu'on offre à nos clients aujourd'hui, sans avoir eu besoin d'intégrer un savoir-faire qui est très spécifique chez nous. Nous, notre métier, c'est des produits de première main qu'on va mettre sur le marché dans les meilleures conditions possibles. La seconde main, c'est autre chose. Donc, c'est un service qui fonctionne. Et au moment où on se parle, il y a 20 000 articles Verbaudet d'occasion qui sont disponibles sur verbaudet.fr. Et tout ça est opéré avec Smala et grâce à Smala.
Mélanie. Aujourd'hui, on voit finalement la seconde main, ça reste un marché assez tactique. Et en l'occurrence, je me posais la question de vous, qu'est-ce qui freine encore les parents à l'heure actuelle pour acheter des produits de seconde main?
Alors, la seconde main, il y a plusieurs freins qui existent. Il y a d'abord le temps. C'est-à-dire que la seconde main, ça prend toujours un petit peu plus de temps puisque c'est des références uniques. Donc, il faut chercher. Même sur les meilleures plateformes, il faut quand même chercher son article. Donc, je dirais qu'il y a le temps et il y a surtout la crainte, mais qu'on essaie de lever avec Smala aussi, de l'état du vêtement, de l'expérience. C'est une vraie crainte des parents. Et nous, nos clients nous disent, en fait, je passe par Smala parce que je suis sûre, en fait, de ce que vous allez m'envoyer. Je suis sûre que ce sera nickel. Je vais pas avoir des retours, je vais pas avoir des problèmes. Je vais avoir et si jamais il y a un souci, il y a un SAV qui est dédié.
D'accord. Mathieu Hamel, est-ce que ça vous a donné l'envie de faire la même chose avec d'autres catégories comme les jouets, le mobilier? Est-ce que ça pourrait être une option?
Alors, c'est une très bonne question. Et évidemment, on se pose la question. Mais comme ce métier de la seconde main n'est pas notre métier, on a besoin de trouver le bon partenaire pour opérer. Et pour l'instant, Smala ne propose pas finalement d'autres catégories au-delà du textile. Je crois qu'on fait un peu de linge de maison ensemble. Voilà, il nous faut trouver le bon partenaire. Mais c'est sûr que pour de la puériculture, ça aurait beaucoup de sens.
Aude, c'est à l'étude, ça?
Alors, c'est vraiment, en fait, la seconde main, c'est un métier et chaque catégorie est un métier. C'est-à-dire que nous, on fait du textile enfant, autant comme l'adulte ne nous pose pas de soucis. On fait d'ailleurs des vêtements maternité. La puériculture, c'est un autre métier, c'est des transports différents, l'inspection de produits un peu différents.
Donc, oui, parce que non. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y a des catégories dans les vêtements qui sont plus difficiles à récupérer?
Oui. Alors, ce qu'on observe sur la seconde main, le marché est fait qu'il y a énormément de vêtements sur le bébé, puisque le bébé grandit très vite, donc renouvelle très très vite sa garde-robe. Et à partir de 18 mois, 2 ans, il y a moins de pièces en état de vivre une seconde vie sur le marché. Ça, on voit vraiment un déclin entre le 18 mois et 2 ans sur l'offre produit.
Trois partenaires, donc Jacques Addy, Verbaudet, Cyrilus. Est-ce que vous avez d'autres pistes pour les mois qui viennent?
Eh bien, on est toujours en recherche de pistes. C'est vrai que pour nous, c'est un enjeu, le sourcing est un vrai enjeu. Les partenariats comme ça, c'est à la fois du volume, mais c'est aussi de la qualité de sourcing. Et puis voilà, nous, on est un site, on doit proposer des produits. Plus on a de produits à proposer, mais on sait que plus on grandira, plus le consommateur convertira.
Merci beaucoup, Aude. Merci, Mathieu. Restez avec nous. On passe tout de suite à l'actu de la semaine. Alors Mélanie, alors que les grands rendez-vous du vélo démarrent et que le salon Vélo in Paris ouvre ses portes, comment expliquer que les magasins spécialisés ont moins la cote, malgré finalement un usage du vélo toujours aussi fort?
Alors effectivement, le vélo reste un mode de déplacement qui est extrêmement plébiscité par les Français à l'heure actuelle, mais il est vrai que le marché recule à l'heure actuelle. On a enregistré une baisse des ventes de 12% en volume, 6% en valeur, et c'est aussi le cas des vélos avec assistance électrique, donc qui sont à moins 16% depuis 2022. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on pédale toujours, mais les ventes sont moins là.
Qu'est-ce que ça change pour justement ces magasins spécialisés?
Alors, pour les magasins spécialisés, bah, ça fragilise finalement leur modèle. Pendant longtemps, leur business était appuyé sur la vente de produits neufs. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on vient le voir, c'est plus ce qui crée de la valeur finalement. Et les magasins spécialisés doivent gérer cette offre vis-à-vis des magasins plus généralistes comme Decathlon, qui proposent des vélos qui sont très performants à des prix très accessibles. Donc, en l'occurrence, sur un vélo de route, chez Decathlon, on va le trouver à 3 000 euros. Comme dans un magasin spécialisé, on est plutôt entre 5 et 12 000 euros. Donc, voilà, un vrai changement. Donc, les magasins spécialisés doivent apporter de la valeur à leurs clients, notamment autour de ce qui est de la réparation, de l'entretien, mais aussi de proposer des produits connexes.
Qu'est-ce que ça dit de l'usage et de la consommation?
Alors, finalement, l'usage a évolué. En l'occurrence, on est passé d'un cycle où il y avait un très fort taux d'équipement, notamment post-Covid, avec l'appui des aides de l'État. Donc ces aides, elles se sont arrêtées en début d'année dernière. Et en l'occurrence, maintenant, on est plus sur ce que je disais, la réparation, finalement, avec, en l'occurrence, on est sur 6 millions de réparations par an. C'est quand même 3 fois plus que le nombre de vélos qui sont vendus. Et donc, on se retrouve avec de plus en plus de vélos qui sont d'occasion sur ce marché et qui transforment un peu la vente.
Merci beaucoup Mélanie, merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur cette émission spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis depuis la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau rendez-vous de Focus Retail. Et quant à moi, je vous retrouve lundi dans la matinale de BFM Business et je vous souhaite un excellent week-end à tous.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.